radio. Okapi, Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité. Fraude et tricherie lors de l'examen d'État. Quelles sont les mesures de lutte? Serge Bondé Diélé, secrétaire général de l'ASBEL IMAE, Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne Koleza Mumbongote, notre invité aujourd'hui. Monsieur Bondé, dit bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de la fraude et la tricherie lors de l'examen d'État. Vous savez déjà, les élèves vont affronter les épreuves de la dissertation français oral et français et l'anglais oral à partir du 4 mai prochain. On en parle tout à l'heure. Appelez déjà pour intervenir au 085 421 15 47. Dans la deuxième partie de votre magazine, aujourd'hui, nous allons parler des conditions de vie sociale des journalistes congolais. Comment vivent les journalistes congolais, dans quelles conditions et comment améliorer déjà ces conditions précaires, comment améliorer ces conditions de vie. Monsieur Belide Bunga, il est journaliste et député honoraire, le directeur général honoraire de la RTNC. Il sera avec nous à partir de 11h05 pour échanger avec vous autour de ces thèmes. Appelez déjà au 085-442-11-547 pour participer à cette émission. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission. Esther Mamboté assure la diffusion sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Sylvain Baouguere à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler à présent de la fraude et la tricherie lors de l'examen d'État. À l'approche des épreuves de l'examen d'État en République démocratique du Congo, les élèves finalistes du secondaire se préparent à affronter la dissertation, le français et l'anglais oral à partir du 4 mai prochain. Dans le même temps, entre-temps, les réseaux des fraudes s'organisent également, élaborant des stratégies pour faire fuiter les items, corrompre les surveillants, installer des laboratoires ou encore introduire des mercenaires dans les salles d'examen. Dans certains cas, ces pratiques de fraude, de corruption et de tricherie impliquent même les autorités scolaires ou des promoteurs des écoles privées déterminés à obtenir un taux de réussite de 100% afin de valoriser leurs établissements. Face à cette réalité préoccupante, plusieurs questions s'imposent. Comment lutter efficacement contre ces mauvaises pratiques? Comment garantir la crédibilité de cette épreuve certificative qui conditionne chaque année l'avenir des centaines de milliers de jeunes congolais? Ces préoccupations restent au cœur du débat sur l'intégrité du système éducatif congolais. On en parle aujourd'hui avec Serge Bondé Diélé, secrétaire général de l'ASBEL IMAE et coordonnateur de la campagne École Eza Mumbongote. Serge Bondé dit encore une fois bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi.
Ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Oui. Alors comment évoluent les préparatifs de l'examen d'État édition 2026 hein? Oui, c'est 2025-2026, c'est ça?
2026.
Voilà.
Oui, mais bon, généralement bon, on parle de l'édition 2026.
D'accord.
C'est qui couvre l'année scolaire 2025-2026.
Oui.
Oui, je crois que les préparatifs vont bon train. Parce que même hier, dans le cas du monitoring, même hier, le IPP, qui sont généralement chargés pour ses travaux, était en réunion.
Les inspecteurs.
Ah, oui, les inspecteurs principaux provinciaux étaient en réunion avec monsieur l'inspecteur général chef des corps. Il y a des conditionnalités techniques, donc des contraintes, il y a de ces provinces où, selon les informations en notre possession, le mal sont déjà en train d'être convoités. Donc, et nous espérons beaucoup plus, surtout pour la partie occupée, que les choses se passeront correctement. Et c'est ici les lieux aussi de lancer un cri d'alarme, parce que l'année passée, il s'est posé quelques soucis pour les candidats de la province d'Ituri, parce que avant les gens avaient souhaité qu'ils payent. Ensuite, lorsqu'ils ont suivi que le gouvernement prenait en charge le Nord et le Sud Kivu, les gens se sont rebuffés pour demander au gouvernement. Ces changements de cette polarisation-là avait donné quelques soucis et pour la prise en charge des intervenants. Et nous pensons que cette année, les choses se font déjà très bien. Donc je crois que les grandes dates, il y a la hors session qui commence le 4.
Le 4 mai
avec la dissertation. Ensuite, le 5 sera les épreuves traditionnelles et l'oral des Français va poursuivre. Donc, du 4 au 18, c'est pour les épreuves hors session. Et cette année, le ministère avait indiqué qu'il y a une autre épreuve qui s'est ajoutée, c'est celle de l'oral de l'anglais,
ouais.
En tenant compte de l'employabilité des jeunes, aussi l'ouverture et cette proximité de notre pays avec le pays des l'oncle Sam, et aussi les enjeux de la mondialisation.
Mondialisation, donc surtout, il faut absolument apprendre l'anglais.
Surtout ceux qui font les filières techniques, surtout pour la maintenance, l'industrie, c'est important. Et Imaye, comme partenaire éducatif, nous ne pouvons que soutenir. Et je crois dans les prochains jours, nous vous annoncerons ce que nous allons faire à ces chapitres.
Bien, vous revenez d'une tournée dans les grands Bandundu pour sensibiliser par rapport à la fraude, à la tricherie lors de l'examen d'État. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, effectivement, nous étions au cours du mois passé, au mois de mars, dans la province d'Ikwilu, où nous avons tenu 4 journées de sensibilisation dans la ville de Kikwit. C'est là couvert 4 communes et 4 grandes communes qui abritent 4 principales sous-divisions de la ville de Kikwit. Ensuite, nous avons fait Massima Nimba, où nous étions bondés du monde, comme partout ailleurs. C'était de vifs échanges et nous avons clôturé à Masamuna, dans la commune rurale de Kizenga. Et c'était des moments important parce que cette situation alarmante de la fraude, de la tricherie et de la corruption qui gangrène de manière générale notre pays, notre société, et ne laisse pas pour compte le secteur éducatif, s'est installée en culture et il faut mobiliser les communautés pour comprendre le bien fondé de s'ériger en faux contre les pratiques avilissantes qui sont de diverses manières. Et pour Imaye, nous en avons documenté au nombre de 30 les pratiques avilissantes, pour ne pas dire les antivaleurs, par lesquelles la fraude, la tricherie se manifeste ou s'exprime lors des épreuves certificatives. Que les gens comprennent, surtout les enfants qui étaient associés, les candidats, et les chefs d'établissement, les inspecteurs itinérants comme chef des poules, les IPP adjoints comme les IPP titulaires, qu'ils comprennent, le chef d'établissement, je disais, qu'ils comprennent le parent, que les recours à la fraude a des conséquences néfastes et que ce que nous vivons dans notre pays, ce n'est pas Imaye qui l'invente, vous avez le rapport de l'indice du développement humain, vous avez le classement de Doing Business, vous avez le rapport du PNUD sur le développement, vous avez les niveaux et la qualité de vie dans notre société du point de vue dans l'approche droit économique, socio et culturel.
Et pourquoi avoir ciblé le Kwilu? C'est parce qu'il y a un taux élevé de tricherie ou quoi?
Bon, il est vrai que cette partie du pays, c'est parmi les rares où quand vous conversez, même avec les enfants, vous sentez qu'ils ont, ils maîtrisent.
Ils ont un niveau.
Un bon niveau. C'est les Kouilous. En tout cas, ça, c'est les constats que j'ai faits à travers mes nombreux déplacements à travers le pays. Il y a les Kouilous, il y a le Katanga, principalement Lubumbashi. Mais cependant, c'est un coin qui est confronté à beaucoup. Beaucoup d'antivaleurs aussi. Vous avez le tribalisme, même dans le milieu éducatif. Mmh. Vous avez ces pratiques de fraude, des tricheries, dans les rangs des enfants, des enseignants, des chefs d'établissement et certains inspecteurs. Certes, pas tous, mais beaucoup. Et pour preuve, lors d'une journée de sensibilisation, ce n'était pas facile pour nous de faire comprendre aux gens qu'il faut s'ériger contre le recours à la fraude, notamment à Massima Nimba, en utilisant des langages imagés. On était surpris de voir que certains inspecteurs étaient prêts à dire « Oui, nous sommes prêts à consommer les gâteaux empoisonnés. » C'était un langage pour nous de dire la corruption, c'est un gâteau.
Ils sont prêts à se lancer.
Ils ont dit « Nous sommes prêts à mourir, nous allons manger et nous allons mourir après. » Il fallait les confronter avec les enfants et pour qu'ils comprennent, en fin de compte, ce qui était génial et qu'à la fin, nous sommes sortis très égayés dans cette salle. Et au moment où nous parlons, cette partie de la République poursuit les sensibilisations sans nous. Ce sont les témoignages que nous avons. C'est cette appropriation-là. Et pendant que nous parlons, il y a les équipes de Imaye. Hier, ils étaient à Kipushi, plutôt le samedi. Ils étaient à Kipushi. Aujourd'hui, ils seront à Kasenga, dans le Grand Katanga.
Oui.
Donc, nous continuons et...
Vous continuez à sensibiliser.
Et voilà. Aidant, nous serons prochainement dans le Congo central.
Bien, merci de nous écouter à Kikwit. Vous êtes à Lukemi, Lukolela, Nzinda, Kazamba. Merci d'être branché sur la fréquence et la paix. Alors, pendant que les préparatifs vont bon train, les réseaux mafieux aussi se préparent. Alors, quelles sont les pratiques que vous avez souvent, que vous dénoncez souvent lors de l'examen d'État? On parle souvent des laboratoires, on parle des mercenaires qui entrent dans les salles. Il y a même des chefs d'établissement qui sont impliqués dans la corruption et dans la fraude.
Effectivement, avant d'en citer, je tiens ici à saluer quand même cet engagement. Ça, j'en avais pris l'engagement à Massima Nimba de la part d'un collègue activiste de la société civile Force Vive qui était sur place. C'était son témoignage et il m'avait vraiment demandé le jour où je serai en face de vous, de porter sa voix. Mmh. Il a dit que c'est un bon signe pour l'État de se réveiller dans son profond sommeil qualifié de coma dans la lutte contre les antivaleurs. Parce que depuis tous ces temps qu'on a mené la campagne École des Amours Montés, surtout sur cette question, nous l'avons toujours fait en dehors des écoles, mais depuis l'avènement de la nouvelle citoyenneté, le ministère de l'Éducation nationale, à travers l'inspection générale, a institutionnalisé ces sensibilisations. Bon, c'est peut-être pas les termes appropriés, mais le fait de mener les activités avec les acteurs concernés, c'est un grand pas. Et nous pensons que le ministère maintiendra cette approche, que ça ne s'arrêtera pas. Donc c'est un bon signe pour les changements et ça c'est un indicateur parce que si les autorités au niveau du ministère acceptent de parler de la fraude dans ces installations, c'est un indicateur qu'ils sont engagés effectivement dans cette histoire.
Alors maintenant, quelles mesures efficaces mettre en place pour contrer tous ces réseaux mafieux qui fonctionnent lors de l'examen d'État?
Je reviendrai. Vous avez 30 cas que nous avons documentés.
30 cas de fraude.
30 cas de fraude et nous les avons situés en trois phases. Nous avons la phase avant, celle qui s'est faite pendant les évaluations et celle qui s'est commise
après les évaluations.
Mais il y a de ces cas qui prennent corps, certes, pendant les évaluations, mais qui ont des ramifications dans des classes ou au niveau des classes montantes ou inférieures. Et les implications sont en tout cas généralisée. Vous avez l'élément moteur, c'est le problème de la circulation des fausses pièces scolaires, notamment le bulletin scolaire et des certificats, certes, ça, il n'y en a pas assez.
Donc, ça commence déjà bien avant.
Ça commence bien avant. Et là, vous avez les élèves qui sont impliqués, le parent et les chefs d'établissement, et aussi, il y a une direction qu'on appelle CERNI, le service d'identification des élèves. Mmh. Au moment où on ne sait pas contrôler le bulletin qui sont sur le marché, c'est qui sont en circulation plutôt, en ces moments-là, vous avez des parents qui acceptent difficilement que les enfants reprennent, sous diverses raisons, pauvreté, manque de revenus, ainsi de suite. Mais le fait, c'est qu'il y a des parents qui refusent catégoriquement que les enfants reprennent des classes ou redoublent.
Et qui font fabriquer des faux diplômes.
Oui. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous nous sommes battus, je crois que vous avez vu quand il y a eu blackout l'année passée avec le problème du bulletin.
Le bulletin, oui.
Pour redonner à l'inspection générale de l'éducation cette tâche-là de produire le bulletin. Parce que si on sait que les bulletins sont produits à l'inspection, on peut faire le monitoring, l'État peut voir, l'État peut contrôler le flux, surveiller le flux. Et ça, je crois, c'est l'une des mesures et qui est en phase d'expérimentation, mais comme société civile, je dois dénoncer des directeurs provinciaux qui mettent des bâtons dans des roues contre cette innovation ou contre cette mesure. Parce que vous avez de ces provèdes, vous avez de ces directeurs provinciaux qui entretiennent des réseaux mafieux de circulation de bulletins scolaires. Ensuite, vous avez, suite à cette mafia, vous avez un problème qui se constate lors de l'inscription au rôle. L'inspection a une formule qu'on appelle C7. En principe, ça se passe à tous les niveaux. C'est ça la règle. Mmh. C'est-à-dire l'enfant qui est admis, par exemple, à la deuxième année primaire, on doit s'assurer qu'il avait effectivement réussi en première année primaire.
Absolument.
Mais malheureusement, avec des moyens peut-être aussi selon certains inspecteurs qui sont faibles, On concentre beaucoup plus les efforts de ces contrôles au niveau des classes terminales. Donc vous avez la sixième année primaire et la quatrième année des humanités. C'est ce qu'on appelle C7. Et ce qui se constate, vous avez des enfants qui n'ont pas les profils et les niveaux requis pour se retrouver en classe terminale. Nous en avons expérimenté dans la commune rurale de Kizenga où j'ai fait passer 6 élèves finalistes et je leur ai donné un texte pour lire.
Et ils sont incapables.
La salle était scandalisée. Il y avait à peine un qui tâtonnait et un autre qui, plus ou moins, était à un niveau acceptable. Mais c'est les parents étaient mouillés, la queue entre les pattes. Le chef d'établissement ne savait pas justifier comment ces enfants pouvaient se retrouver en quatrième année des humanités et être incapables de lire. Et ça, c'est parce que Le contrôle des dossiers de scolarité s'est fait de manière complaisante. Parce que vous avez des chefs d'établissement qui admettent les enfants sans profil, ni niveau requis, tout simplement parce que pour ces chefs d'établissement, c'est l'argent qui compte. C'est là où nous disons, école est comme à Mombongo. Mmh. Parce que plus ils ont des candidats, c'est comme...
Plus il y a de l'argent.
Plus il y a de l'argent. Beaucoup, ouais. Et la semaine passée, il y a eu un cas qui a été dénoncé. Une école à Lukunga, le nom me reviendrait, qui fait payer la dissertation à ça $30. Et complet scolaire Mama Sifa.
La dissertation qui aura lieu à ça 30 dollars. On a fait payer aux enfants
130 dollars. Et le point focal, il met Lukunga et l'IPP ont fait la descente sur place.
Il y a certaines écoles qui demandent 100 000 francs congolais.
Donc, tout ça parce que les gens, certaines personnes, pas tous, certes, qui croient que plus vous avez des afflux, plus c'est l'argent qui entre en caisse et ça pousse les gens à réfléchir de cette manière-là. Vous avez aussi des cas de E13 et Dieu merci, puisque nous parlons des mesures, à partir de cette année, le transfert des données, c'est-à-dire des cotations des points de E13, se fera de manière digitalisée. Donc, la digitalisation fait partie des solutions. Au-delà de la conscientisation, mais il faut des approches alternatives qui sont susceptibles de limiter au maximum la fraude. Il y a autant de faits. Vous avez le frais des laboratoires, par exemple, parce que les candidats qui n'ont pas de niveau, qui ne se sont pas préparés, qui savent qu'ils ne seront pas affrontés les évaluations, ils doivent sous-traiter. En ce moment-là, les frais des labos, ils sous-traitent un groupe d'enseignants qui reste quelque part, et cette antivaleur se commet en combinaison avec la pratique de la fuite des items. Donc, lorsque vous captez les items,
les enseignants vont répondre à la place des élèves.
Et c'est ici le lien de dénoncer. Ça fait partie des actes. Certaines personnes qui sont envoyées dans des centres sous casquette de l'agent des ANR, de l'Agence nationale des renseignements, plutôt de jouer les rôles des surveillants pour les renseignements, au contraire, ils surveillent ceux qui peuvent venir détecter la fraude.
Oh.
Au lieu de surveiller les fraudeurs,
ils surveillent
ceux qui viendront détecter la fraude.
La fraude.
Et tout simplement parce que j'ai eu à interroger une personne supposée être de l'ANR à Bumba l'année passée. Mais il n'avait rien d'un agent de l'ANR.
C'est
Mais
dommage.
Tout simplement parce que c'était le président de l'Assemblée provinciale qui l'avait recommandé.
Mais pourquoi les surveillants de l'examen doivent être les membres des partis politiques, etc. Bon, nous allons revenir là-dessus, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous parlons de la fraude et de la tricherie lors de l'examen d'État. Quelles sont les mesures de lutte? Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, Gustave Kabea à Chimbulu et Joël Mbombo nous appelle depuis Kananga. Maître Kigalo, bonjour. Merci d'ouvrir vos micros, chers auditeurs. Maître Omar, Gustave et Joël, merci d'ouvrir vos micros. Parce que là, on ne sait pas, on peut pas vous entendre. Maître Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
On vous écoute.
Allô?
Oui, on vous écoute.
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Bonjour, Maître.
Oui, je vous remercie du sujet choisi, comme nous l'avons toujours dit. La loi de 2014 sur l'enseignement a rendu obligatoire ces épreuves pour deux raisons. Premièrement, pour évaluer les connaissances transmises aux élèves. La deuxième, pour certifier s'ils sont prêts ou pas à recevoir des diplômes. Mais ce que l'invité dit est réel. Je voulais toujours dire ici, avant de prêter serment comme avocat, j'ai exercé le métier d'enseignant. Tout ce qui se passe réellement, M. Jody. C'est un problème de culture. Un enfant peut être brillant, mais arrivé en sixième, les parents cherchent l'école qui fait 100%. C'est devenu une culture. On ne cherche pas l'école qui forme, mais l'école qui peut faire 100% aux examens d'État. Mais c'est devenu une acculturation que nous devons combattre. Au-delà du fait que l'invitaire, je pose le frais d'occasion matérielle. Aujourd'hui, les écoles obligent aux élèves, au-delà des frais scolaires reconnus officiellement, de payer les frais d'occasion matérielle. On appelle ça augmentation matérielle, mais en réalité, c'est la corruption. Et les parents sont complices. Ils donnent ça aux élèves. Aucun parent ne dénonce, aucun élève ne dénonce. Il y a aussi ce qu'on appelle cotisation des dernières minutes, comme l'a dit l'invité. Les élèves n'étudient pas. Ils sont paresseux. Vers la fin, leur chef de classe ou leur chef de promotion va faire un signe. Les surveillants, les élèves vont se mettre à la porte pour vérifier si les chefs de centre viennent quelqu'un d'autre. Les élèves cotisent rapidement l'argent. Ils remettent et on leur permet de tricher comme ils veulent. Ce sont des faits que nous vivons, que nous avons vécu, pardon. Il y a aussi la collaboration du préfet et du chef des centres. Ça, j'en ai vécu. L'école où j'enseignais, c'était la première fois qu'ils sont en sixième. Je crois qu'on l'appelle ces sous-divisions et qui, là, a clairement dit au préfet, si vous donnez rien, vous n'allez pas réussir. Ils ont douté, ils ont remis la moitié de ce qu'ils avaient demandé. L'école avait trois sections, commerciale, coupe et couture et biochimie. Le meilleur élève était celui de biochimie. Puisqu'ils avaient mal payé, ils ont fait échouer des sections et c'est la section la moins faible qui a fait 100%. Donc ces faits sont réels. Moi, j'en ai vécu quand j'ai été enseignant. Je profite pour dénoncer pour que cela... À mon avis, M. Jody, la première solution, c'est l'inspection Ça, c'est la première solution pour éradiquer ces fléaux. L'inspection en amont et en aval. La loi prévoit que les inspecteurs passent vérifier si l'école ouvre dans les conditions fixées. Est-ce une bibliothèque? Est-ce que les enseignements sont donnés conformément au programme national? Est-ce que l'enseignant est à la hauteur? En aval, c'est qu'au niveau où les jours de l'examen d'État, on doit aussi passer pour vérifier. Aujourd'hui, il y a des surveillants qui ne sont pas enseignants. Il y a des correcteurs qui ne sont pas enseignants. Donc cette inspection doit aussi être faite. Autre chose, il faut moraliser le recrutement des enseignants. Tout commence par là. Parce qu'un intelligent comme nous l'avons été n'a pas besoin de corrompre. Voilà mon avis. Et puis pour finir, M. Jody, il faut la sanction. Quand j'enseignais à l'époque, il y avait un monsieur qui était connu. On l'appelait Moutatik Diplôme Adfo. C'était un grand laborantin. Il buvait aussi au vu des autorités. Il s'est même familiarisé avec des agents de l'État. Alors, aussi longtemps qu'on est complaisant dans les recrutements, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'inspection appropriée, aussi longtemps qu'il y a complaisance et manque de sanctions, on va toujours vivre la même chose. Ce que l'invité dit est réel. J'ai été enseignant, j'en ai vécu et je dénonce. Si on ne sanctionne pas, ces messieurs-là vivent jusqu'à ces jours. On l'appelle Moutatika Diplôme N'a Défaut. Il y a même des gens qui ne font pas l'examen d'État qui viennent les voir et on lui remet l'argent. Il est là, les autorités le connaissent, les OPJ le connaissent, ils boivent avec eux. Les parents le connaissent, tel monsieur a des labos lorsqu'il examine l'État. Donc si les peuples déjà ne dénoncent pas, les parents sont plus, comment voulez-vous qu'on éradique ces fléaux qui détruisent l'éducation congolaise? Voilà un peu ma petite intervention.
Merci Maître Marc Igalo. Gustave Kabea, vous êtes à Chimbulu, au Kasaï Central. Bonjour. Merci d'activer votre micro, Gustave, depuis Chimbulu, au Kasaï Central. Merci de nous écouter partout dans la province du Kasaï Central, à Kananga. Particulièrement, Gustave Kabea, de Chimbulu. Coucou également à tous les auditeurs de Chimbulu. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Kachama. Bonjour également à l'invité. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de saluer la pertinence des interventions de l'invité. En fait, monsieur le journaliste, fort de ma petite expérience de journaliste et enseignant dans un passé récent, là, tellement que si nous voulons nous y atteler, on va prendre beaucoup de temps. Mais ici, la responsabilité est partagée à des échelles différentes. Je voudrais commencer par l'État. Monsieur le journaliste, rendez-vous compte de la situation précaire des parents actuellement, avec tantôt l'impayement, avec les salaires insignifiants. Lorsque l'État, les responsables, je dis bien, fixe les frais de participation à des différentes épreuves, mais ils ne tiennent pas compte de cette situation des parents. Ce qui fait que le parent se voit dans l'obligation de faire réussir leurs enfants par tous les moyens, parce que défendre l'argent qu'ils ont payé, qu'ils ont réussi dans des conditions difficiles. De ce côté-là, l'État devrait d'abord commencer par voir la situation sur la fixation des frais de participation. Mais aussi, lorsque je parle de la responsabilité partagée, je vois les écoles. La fraude et la corruption commencent par les pères vaincus, que nous avons connu d'une manière ou d'une autre des enseignants, déjà à l'école primaire, qui pouvaient nous demander 200 francs pour qu'ils se suffisent à la récréation. Ce qui fait qu'en contre, ces enseignants-là pouvaient se permettre et laisser passer la chose parce qu'ils savent que nous sommes un élève qui a toujours apporté quelque chose à manger pendant la récréation et que nous partageons avec eux.
D'accord. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité? Rapidement, pour donner la parole aux autres également, aussi.
Merci beaucoup. La question que je voudrais poser à l'invité, vu que le mal est profond et que ceci est déjà ancré dans la tête de plusieurs enfants, quels sont les mécanismes, parce qu'il est mieux assuré dans la matière, quels sont les mécanismes qu'il propose pour, si on ne peut pas, d'une manière définitive, balayer ce phénomène, mais au moins éradiquer, diminuer l'intensité de ce mal. Parce qu'en République démocratique du Congo, généralement, la fraude, elle est à tous les niveaux, mais sur le plan éducatif, quels sont les mécanismes qu'il propose à l'État, aux parents et à tous les intervenants dans les systèmes éducatifs pour pouvoir éradiquer ces systèmes. Merci pour ne pas prendre beaucoup de temps.
Bien, merci Gustave. Depuis Timbulu, on va donner la parole à Joël Mbombo depuis Kananga. Merci d'ouvrir votre micro, Joël. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité.
Quelle est votre question, Joël Mbombo?
Merci beaucoup Jody Daniel. En tout cas, c'est un sujet trop pertinent. D'abord, lutter contre la corruption lors des examens d'État en République démocratique du Congo est un enjeu crucial pour la crédibilité du système éducatif. Vous voyez que l'objectif primordial est de sensibiliser et puis d'informer sur les mécanismes de fraude et de proposer des solutions concrètes avec des acteurs clés. Entre autres, on parle des inspecteurs, des sociétés civiles, enseignants. Il y a aussi les ministères. Alors, la tricherie et les pratiques de la fraude sont les plus courantes lors de l'examen d'État, surtout au Kassai central. Là, je parle des cinq territoires qui composent les Kassai centrales. Voilà. Pendant que certains élèves étudient sérieusement, d'autres réfléchissent sur des nouvelles techniques, des tricheries, parfois en complicité avec les autorités scolaires. Alors, voilà des termes qu'ils révèlent, par exemple, labo, échographie, suivi mercenaire, sont là des termes qu'ils révèlent, et surtout les démarches entreprises par les élèves pour réussir sans effort.
Donc, alors, au Kassai central, il y a beaucoup de cas de tricherie, d'après vous.
Oui, c'est ça. Au Kassai central, d'abord, je peux vous dire, c'est un milieu réservé à la corruption et aux tricheries. Ça, je peux vous affirmer.
Merci beaucoup.
Parce que même les autorités.
D'accord, merci. Alors, merci. On parle des labos, on parle de même de, d'échographie, etc. Merci. On va.
La question.
Oui.
La question, je voudrais poser la question à notre invité. Quelles sont les sanctions encourues en cas de tricherie à un examen d'État ou bien le gouvernement mise sur la digitalisation pour sécuriser les épreuves? Comment la numérisation des examens peut-elle concrètement réduire la fuite des items? Quelles mesures effectivement des sécurités spécifiques peuvent être mises en place par la cellule antifraude cette année de 2026. Voilà, cher Rudy.
Merci beaucoup. Némi Trésor, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aux auditeurs. Bonjour également à l'invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Alors, je n'ai pas de questions, mais j'ai quand même une petite intervention. À donner par rapport au sujet du jour. Je commence d'abord par signaler que, et comme l'ont dit mes prédécesseurs, sans peut-être y revenir avec beaucoup de détails, c'est que la fraude à toutes les épreuves. Je commence par citer l'ENAFEP, l'ETNASOSP, la première session de l'examen d'État, mais également la session proprement dite de l'examen d'État. C'est pratiquement une chaîne. Je n'ai pas à mâcher des mots pour dire, voilà, que certaines autorités scolaires se retrouveraient dans ces cas. J'exclus le conditionnel, mais j'affirme ici que plusieurs autorités scolaires, et pratiquement dans toutes les directions, y compris les inspecteurs, les chefs des centres,
ils sont tous impliqués.
De sécurité. Oui, même les services de sécurité, bureau 2, ANR et la police nationale, ce n'est pas aujourd'hui, j'ai travaillé dans ces secteurs là-bas, je crois que je crois aussi avoir fait une petite surveillance, à l'examen d'État. Parce que vous allez vous rendre compte que un surveillant, même la fuite, je pense que l'invité doit nous dire, la cellule antifraude va travailler, va émettre quel mécanisme. Parce que vous allez vous retrouver dans une salle d'examen, où c'est le chef des centres qui se concerte avec les agents de sécurité qui sont aux alentours du centre, mais qui permet aux élèves de prendre les photos des items pour les envoyer à l'extérieur. D'ailleurs, même certaines écoles privées, et certains promoteurs d'écoles privées, qui ont des commissions, qui travaillent dans les alentours des centres. De sorte que après quelques temps, surtout pour les écoles, les options techniques, vous allez voir un monsieur qui passe dans la salle, qui pose des copions avec des réponses bien.
Et les élèves se mettent à recopier.
Ils se mettent à recopier. Vous vous dites, bon, nous sommes dans quel pays ici? Et après, quand il y a publication des résultats, bon, les gens réussissent, même des foutrons. Vous voyez quelqu'un qui n'a rien foutu, qui ne connaissait rien peut-être des examens d'État, qui vous fait 85 et tout ça. Alors, je pense que c'est premièrement un problème de conscience, mais aussi un problème d'éducation. Parce que s'il faut parler de la fraude, je me posais une question. Est-ce que ce sont les examens qui sont difficiles? Ça, c'est une question fondamentale que je me pose. Est-ce qu'il y a moyen d'adapter les matières que nous disposons au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique? Est-ce qu'il y a moyen d'adapter? Parce que c'est ça la grande difficulté. Vous voyez, tous ces élèves, même les plus brillants, personne ne va vous affirmer, monsieur Jody, qui n'utilise pas les labos. Dans toutes les écoles, c'est fréquent. Je propose seulement, parmi les propositions, je souhaite à ce que l'on puisse adapter quand même la qualité de l'enseignement. Je suis en train d'ailleurs de voir un danger. Si à l'oral des Français, un élève, on lui dit, hey, tu es de quel genre? Il est un homme, et il répond, genre féminin. Qu'adviendra-t-il alors avec l'épreuve
oral en anglais
vient de nous ajouter ici.
Là-bas, ce sera good morning, how are you, etc.
Ça sera une bêtise. Un élève, on lui dit, tu es de quel genre? Un garçon qui dit, je suis de genre féminin. Bon, ce sont des histoires que nous vivons ici. Alors, je pense que on doit d'abord adapter les niveaux d'enseignement, mais aussi sensibiliser. Il n'y a pas, monsieur, je dis, je vais m'arrêter par là, il n'y a pas vraiment de sérieux, surtout d'ailleurs au village. Il y a certains inspecteurs, quand on les envoie au village surveiller, principalement dans certains territoires reculés ici à Kamina, dans le Haut-Lomami.
C'est l'occasion pour eux pour avoir de l'argent.
Pas seulement l'occasion à Kanyama, à Kabongo, pas seulement l'occasion, mais c'est aussi l'occasion. Mais il y a le fétichisme. Quand seulement un inspecteur part avec les rigueurs, allez, on lui frappe une maladie.
Oh là là.
Allez, il fait deux jours à la maison, il ne suit pas.
Il est hospitalisé.
Et malheureusement,
voilà.
Il est hospitalisé et puis comment ça s'est passé de l'autre côté. Voilà un peu mon intervention, monsieur.
Merci, Némi Trésor depuis Kamina. Maître Antoine Moulumba, vous êtes à Kisangani, bonjour. Maître Antoine n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Monsieur, Serge Bondédi, vous avez suivi toutes les préoccupations par rapport à la fraude, aux pratiques de fraude lors de l'examen d'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Ah oui, surtout Joël, quand il a dit que cette question est un enjeu majeur sur la crédibilité. Bon, vous savez, il a dit vrai. Parfois, le parent, tout le monde, nous devons toujours nous interroger à quoi bon d'avoir un diplôme dont la valeur se limite à l'aéroport d'Ngélé. C'est ce qui se constate. Nous avons beaucoup ont des diplômes. La valeur se limite ici à l'aéroport d'Ngélé. Dès que vous montez au bord d'un avion,
c'est fini.
C'est fini.
Ça n'a plus, c'est plus considéré.
C'est plus considéré si vous faites peut-être Brazza. Nous devons être...
Des élèves qui ne savent ni lire ni écrire.
C'est grave. Donc, et aujourd'hui, les gens se lamentent, détournement, corruption. Mais tout ça, excusez, ça fait partie des conséquences d'admettre, de systématiser, d'accompagner la fraude dans une société. Vous avez des coins dans cette république comme à dans les Sankourou, où on assiège carrément les centres de passation. Toute la famille, toute la communauté vient assiéger
les centres. Pourquoi?
Ah oui, mais il faut que les enfants
réussissent absolument. Les labos,
c'est le cas.
Ça fonctionne autour des
cas à Chouapa 2 aussi, où, comme un auditeur l'a dit, vous avez des coins où si vous essayez de montrer votre, de faire preuve de la rigueur, mais on vous tue. Là,
ou on vous envoie à l'hôpital par pratiques mystiques.
Par des pratiques mystiques. Ou soit vous tombez malade, vous ne sortirez pas.
Jusqu'à ce que l'examen va prendre
Jusqu'à ce que l'examen prendra fin. Vous avez des coins. Non, vous êtes IPP, vous venez avec la rigueur, on vous dit non, ici ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas tel que vous pensez faire.
Oui.
Donc la communauté, comme quelqu'un a dit, un auditeur a dit ici, je crois, que c'est toute la communauté, c'est toute
même
notre société.
Même les promoteurs des écoles sont impliqués dans les laboratoires, tout ça autour des centres.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui ne sont pas à la hauteur d'être éducateurs. Beaucoup ne sont pas éducateurs, ils sont juste
des commerçants.
Parce que vous avez beaucoup de promoteurs qui sont, par exemple, dans le Congo central, où nous allons nous rendre. Heureusement, depuis 2 ans, il y avait quand même un IPP qui était là, qui a essayé de remonter la pente. Il y avait ce qu'on appelait le phénomène Ngoulou. Les enfants sont dans le Congo central, mais les diplômes sortent à Kinshasa. Vous payez tout.
Dans le Congo central, diplômes sortent ici.
Sortent ici parce qu'on vous aligne dans une école
de Kinshasa
où vous ne mettrez jamais le pied, mais les promoteurs ici s'arrangent. Et parmi les écoles qui font en poupe ces phénomènes Ngoulou, il y a un député qui parle trop même.
Qui est impliqué dans ces écoles-là.
Qui est impliqué dans ça. Il a parfois 1500 candidats dans la commune de Selimbao.
Ça, c'est grave.
Oui, un député national. Et il parle trop. Bon, depuis un moment qu'on l'a invincé un peu dans ses ambitions, il parle plus.
Il parle moins.
Il est dans ça. Vous avez des promoteurs qui sont, parce qu'ils sont politiques, parce qu'ils sont, j'en ai vu aussi à Bumba. Après la supervision, on débarque dans un coin au bord du fleuve. On trouve le chef d'établissement, son labo et les enfants en train de préparer pour le lendemain.
Mais comment on autorise aux enfants d'entrer dans les centres avec les téléphones et prendre les photos des items pour envoyer à ceux qui sont dehors dans les labos pour les travailler?
C'est ce que nous avons dit. Il y a des implications et un auditeur l'a affirmé. Des chefs de centres. Vous avez certains inspecteurs, ça nous en avons parlé à Kikuiti surtout, vous avez certains inspecteurs qui tiennent mordicus à être alignés pour les évaluations. Pas parce qu'il est compétent, pas parce qu'il est, mais parce qu'ils savent que c'est le moment des grands enjeux. Même ceux qui ont des problèmes de témoignage dans l'opinion. Ceux qui ne sont pas crédibles.
Oui.
Et si vous ne l'alignez pas, eh ben, vous avez sérieusement des problèmes, et surtout qu'ils font, ils opèrent en corporatisme. Donc là, parce que vous avez affaire à un chef de centre qui est foncièrement corrompu, qui voit quels les intérêts avec
l'argent
avec des surveillants
corrompus.
Qui ne sont pas à la hauteur, incompétents.
Des membres des partis politiques.
Malheureusement, les enfants, quelqu'un a posé quand même une bonne question. Est-ce que les gens trichent parce que les examens sont difficiles? Voilà pourquoi parmi les solutions préconisées, à un certain moment, il faut évaluer notre système d'évaluation. Mais en vrai dire, ce qui est donné comme composition, ça sort de la matière. C'est peut-être les enfants ont peur pour rien. Où il y a de l'arnaque qui est orchestrée.
On mystifie l'examen d'État.
On mystifie l'examen à un niveau.
Les enfants ont peur.
Et il y a ce qu'on a dit à Kikuiti. On fait vivre les enfants avec le mythe du diplôme. Les enfants, comme quelqu'un a dit ici, au lieu de penser à l'école qui forme, on cherche l'école qui donne le 100%.
Le 100%.
Parce que les gens vivent dans cette mythe-là. Diplôme à tout prix.
Est-ce que la digitalisation, la mise en place d'une cellule antifraude, tout ça, est-ce que ça va aider à réduire sensiblement la fraude?
Nous avons préconisé effectivement, il faut le recours. Comme c'est quand même, il y a beaucoup d'années depuis que nous sommes sur cette thématique, la digitalisation fait partie des solutions effectivement, parce que il faut digitaliser, il faut numériser. C'est vrai que le pays connaît un problème de fracture numérique, mais il faut y aller. Méthodiquement, il faut aller petit à petit jusqu'à arriver à terme. Le manuel d'éthique.
Un instant, on va accueillir les auditeurs rapidement et puis vous allez continuer. Maître Antoine Moulumba, depuis Kisangani, bonjour.
Bonjour Jody, vous me recevez bien?
Oui, oui, on vous reçoit à 5 sur 5. Rapidement, quelle est votre question?
Bon, merci beaucoup. Hein. Je pense que tout le monde a tout dit. Même notre invité, je salue en passant.
Merci.
Sauf que je voudrais tellement donner un exemple, hein, oui. Mon exemple personnel. Moi, j'ai eu mon diplôme en 1988. Je ne sais pas si vous avez eu à ce temps-là. En 1998, comme disent les Français. J'avais raté en 1987. Écoutez, je vous dis, avant ces années, vers les années 77 et 76, nous étions petits, on voyait comment on organisait les examens d'État. C'est vraiment, vous attendez par l'examen d'État, c'est une affaire d'État. On voyait des militaires venir barricader l'endroit où on faisait les examens d'État. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie.
Oui.
Vous comprenez?
Oui.
Moi, quand j'ai eu mon diplôme en 88, après, bon, je ne sais pas, je suis allé au Burundi, quand je vivais à Bukavu, je suis allé au Burundi, bon, j'ai vivre là-bas parce que mon oncle était diplomate là-bas, donc je ne voyais plus comment, après moi, comment c'était organisé, mais quand je suis revenu au pays, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Vous voyez, il y avait des militaires qui surveillaient, et celui qui trichait, il était emprisonné, je vous dis, aujourd'hui. Il allait en prison. Parce que c'est une affaire d'État. C'est la haute trahison même. C'est la trahison. Ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, tout le monde est en train de trahir le pays. Même à ces niveaux-là. Vous voyez. Donc, c'est une infraction même contre la sûreté de l'État. Vous voyez. On est en train de former des futurs dirigeants du pays. Et on laisse faire tout ce qu'ils veulent avoir. On ne comprend plus rien. L'argent est devenu aujourd'hui comme la monnaie courante, permettez-moi la tautologie. Bon, on ne comprend plus rien, vous voyez. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a partout la corruption. L'argent, on se pose même des questions, est-ce que... Moi, en tant que chrétien, je me dis, bon, c'est peut-être la fin du temps, parce que la Bible dit au dernier moment, les gens vont aimer l'argent. Moi, je pose maintenant la question à notre invité. Comment faire pour revenir à ces pratiques-là, des pratiques anciennes, des valeurs qu'on avait à ce moment-là, à l'époque de Mobutu. Je peux dire ça.
Merci beaucoup.
Et puis, qu'est-ce que l'État fait? Pourquoi l'État n'arrive pas à s'organiser pour que nous puissions revenir au temps passé?
D'accord.
À ces valeurs qu'on avait,
à l'époque. Merci beaucoup. Thomas Ougeni, vous êtes aussi à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Oui, quelle est votre question, Thomas?
Bonjour. Rapidement, monsieur Jody, moi j'ajouterai quatre éléments avant de poser une question à l'invité. À ce qui est des mesures à prendre, monsieur Jody, c'est d'abord de renforcer la sécurisation des épreuves. Surtout, on doit concevoir les items, pour moi, dans un cadre, en tout cas, strictement confidentiel. On ne sait pas comment est-ce que d'autres personnes ont déjà eu les items ou les questionnaires avant même que ça soit le jour même de l'examen, c'est-à-dire la sécurisation des items doit être à toute confidentialité, M. Jody. La deuxième élément, M. Jody, pardon, c'est la sanction. La sanction doit être là, on doit appliquer la sanction exemplaire contre les élèves tricheurs, les surveillants, les complices, mais également les chefs d'établissement impliqués dans ces problèmes-là. Cette personne-là, s'ils sont impliqués dans la fraude ou la corruption, doivent être sanctionnés correctement.
Oui, soyez bref, les autres attendent, on n'a plus beaucoup de temps. Vous pouvez passer rapidement à la question pour donner également aux autres la chance d'intervenir.
Philippe, rapidement, là. En tout cas, quelles sont en tout cas les causes socio-culturelles, parce que j'ai suivi les items de la culture également qui a trahi les causes, je ne sais pas. Monsieur l'invité, quelles sont en tout cas les causes socio-culturelles de la tricherie dans le cadre des examens d'État?
Merci.
Quelles sont en tout cas les causes?
Merci beaucoup. Jeannot Louembwe, vous êtes à Kolosi dans le Lualaba. Bonjour. Jeannot n'est plus là. Alex Mwanza, depuis Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité de la radio Okapi.
Oui, on vous écoute, Alex, rapidement.
Oui, merci beaucoup, M. Jody, pour ce pertinent sujet qui parle de la fraude et la tricherie aux examens d'État, qui est presque pas déjà l'horizon. Vous savez, M. Jody, ce que nous constatons dans nos milieux est qu'actuellement, les matières ne se donnent pas à régulièrement, surtout dans nos écoles publiques où les enseignants sont rémunérés ou payés. C'est impossible que ces enseignants enseignent avec gratitude, M. Jody. Vous savez, l'enfant n'a pas la matière de se défendre. Il n'a pas étudié la dissertation, mais vous trouverez que l'enfant-là est incapable de répondre même au carnet. C'est pourquoi il y a la fraude et la tricherie aux examens d'État. C'est comme une contribution, pas une question, M. Jody.
Merci beaucoup pour cette contribution. Cher Alex Mwanza, Monsieur Bondedi, pour terminer, on a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on retient? Quelles sont les mesures efficaces à mettre en place pour réduire sensiblement la corruption?
Je voudrais rapidement, c'est que les auditeurs et l'ensemble de ceux qui nous suivront devront retenir et que la fraude, les recours à la fraude, à la tricherie et à la corruption, c'est une réalité évidente dans notre système éducatif. Et c'est pas seulement les systèmes, même les systèmes sanitaires, judiciaires, on en parle, la justice malade.
Ça touche plusieurs secteurs.
Plusieurs secteurs, voire même tous les secteurs de la vie. Les sénateurs, les élections, la CENI, les recours avec les élections.
Oui.
Et malheureusement, nous nous sommes acculturés à cela, mais aujourd'hui nous en payons le prix le plus lourd. Les inégalités et la pauvreté s'est accrue, les coûts économiques, perte de croissance, nous les vivons, la qualité de la gouvernance avec la dépréciation de nos institutions et, comme je disais, de la gouvernance, la déstabilisation sociale et l'érosion des valeurs, nous devons à un certain moment nous arrêter et changer les choses ou faire avancer les choses. Et pour le faire, nous devons commencer avant tout dans cette machine qui forme l'homme, et c'est le système éducatif. Parce que si nous jouons le levier à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de potentialités ou des éventualités que les choses s'améliorent considérablement du point de vue général. Les faits sont là. La fraude se manifeste par plusieurs façons. Nous en avons documenté 30. Les auditeurs ont apporté des témoignages. Les responsabilités sont effectivement partagées. Les solutions, parmi les solutions, nous devons changer de mentalité. C'est le bien fondé des sensibilisations, de descente de terrain. Mais il y a aussi la question de la responsabilisation. Et la responsabilisation commence par l'État. Et nous continuons à dire qu'il faut, à un certain niveau, quelqu'un a dit, l'examen d'État, c'est une affaire d'État.
Il faut des sanctions.
On a parlé de l'ENAFEP, ce qui se passe à l'ENAFEP, c'est encore très grave. Nos enfants de 11 ou 12 ans qu'on initie à la corruption
sont déjà trempés
dans la corruption, tout simplement parce que l'État qui a institué la gratuité de l'enseignement primaire ne finance pas l'ENAFEP.
Ben, le ministre Mbikaï, à l'époque, avait proposé qu'on supprime carrément l'examen d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas?
Non, on ne peut pas supprimer parce qu'il y a des problèmes. Ça, c'est disculper l'État de ses responsabilités. Donc, l'État doit assumer ses responsabilités.
D'accord.
Et il y a un grand travail qui doit se faire et qui continue. Bon, l'État...
On va continuer les discussions plus tard. Serge Bondé-Dielé, secrétaire général de la SBL-IMAE, merci et à la prochaine.
C'est à moi de vous remercier.